la mise en place d'une politique sécuritaire avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, le doublement, le triplement du prix du gaz, de l'électricité pour la population, la réduction massive des pensions, etc. Alors en gros, le sort que le FMI promet à la population ukrainienne, c'est en pire celui qu'il offre déjà à la population de la Grèce, par exemple. Malgré ses ressources, malgré son industrie sidérurgique, eh bien c'est un pays pauvre et c'est un pays surtout qui est vulnérable au soubresaut de l'économie mondiale, en particulier de la crise depuis 2008. Et déjà depuis 25 ans, le peuple ukrainien est victime de la corruption, du pillage par les oligarques, du démantèlement de l'économie. Il est victime de la crise depuis 2008. Ah, et c'est déjà la situation, c'est déjà un taux de chômage considérable, à près de 30% dans l'Ouest, avec du coup bien des millions de gens qui fuient pour chercher du travail. Et même à l'Est, avant la guerre, eh bien, du fait de, justement des fermetures d'usines, du pillage, du démantèlement, eh bien la situation n'était déjà pas brillante. Et il faut ajouter à ça la corruption, hein, puisque il faut quand même savoir que la plupart des oligarques qui étaient aux affaires derrière Yanukovych, eh bien, se sont alliés à Porochenko, ils sont toujours là, ils sont toujours les mêmes qui sont en train de piller et le pays et de faire ça à la population. Alors, dans cette circonstance, dans cette situation, quelle perspective pour les travailleurs? Eh bien, en Ukraine comme ailleurs, le problème, le drame, bien, c'est que les travailleurs ne sont pas actuellement en situation de faire entendre leurs propres intérêts politiques, d'exprimer leurs propres revendications. Et remédier à cette situation, même de façon embryonnaire, c'est vital. Hein. Contribuer à faire émerger un parti qui représente les intérêts politiques des travailleurs, c'est l'objectif le plus urgent. Hein, que des militants qui se revendiquent des idées socialistes, des idées marxistes, des idées communistes révolutionnaires doivent se fixer. Alors évidemment, aujourd'hui en Ukraine, les travailleurs sont enrôlés dans l'armée nationale, ils sont pressurés, ils sont appauvris pour payer la note de la guerre. Et puis, dans le Donbass, leur préoccupation quand même immédiate, c'est tout simplement de fuir les bombardements, ils sont transformés en réfugiés. Sans parler, les uns et les autres subissent une propagande ultranationaliste et ils sont sommés de choisir leur camp, avec toutes les conséquences que ça a. Alors, autant qu'on puisse le savoir, bien sûr, il y a une partie de la population qui donne là-dedans. Il y a un certain nombre de conscrits qui sont fiers de participer à l'opération antiterroriste, pour reprendre la terminologie de Kiev. Il y a aussi des chômeurs qui s'engagent, y compris faute de situation dans l'armée. Mais il y en a quand même toute une série d'autres qui en fait fuient cette conscription. Et le gouvernement ukrainien, aujourd'hui, en est à sa quatrième vague de conscription pour essayer de trouver des soldats pour son armée. Eh bien, rien que ça signifie qu'une grande partie de la population ukrainienne ne considère pas que c'est sa guerre. Hein, et ça, c'est quelque chose de notable. Et puis, malgré l'envoi de conseillers militaires d'armement occidentaux, cette armée, elle est sous-équipée, sous-armée, elle subit encore les conséquences de la corruption qui présidait à son fonctionnement depuis le départ. Et alors, du coup, l'absence des armées, on en est même à faire des quêtes dans la rue pour payer des équipements. Hein. Mais l'autre aspect également de cette armée déliquescente, c'est que du coup, ça ouvre la porte à ce que un certain nombre de partis, les partis d'extrême droite, eh bien, engagent leurs propres milices dans ces troupes-là, et un certain nombre d'oligarques et d'affairistes qui profitent de leur présence au sommet du pouvoir politique pour contrôler les pans entiers de l'économie, ville par ville, région par région, eh bien, eux aussi se payent des milices privées, hein, ils jouent comme ça le côté patriotique, ils se placent, surtout ils se mettent en position vis-à-vis du gouvernement et du pouvoir. Alors tout ça, c'est des source de danger pour les travailleurs pour l'avenir. Parce qu'en particulier, ces groupes, ces milices liées aux partis d'extrême droite, elles commencent à prendre physiquement à tous ceux qui refusent les sacrifices, aux travailleurs qui refusent de se soumettre à ce que peut leur imposer pour financer le coût de la guerre. Alors, d'un autre côté, je tiens aussi à dire que ce qui parfait la population ukrainienne contraint sur une intervention occidentale militaire pour les aider à venir reconquérir le Donbass, eh bien, ils se leurrent. Parce que si ça reviendrait à se placer comme des mercenaires de ces puissances occidentales, et ces puissances-là n'ont du sang et des larmes à leur offrir. Alors, de l'autre côté, le Kremlin, c'est pas mieux. Et en Russie, les travailleurs qui finalement se retrouveraient, s'aligneraient derrière le nationalisme guerrier d'un Poutine, eh bien, ils perdraient beaucoup. Parce que c'est également aux classes laborieuses de Russie que depuis des années, y compris bien avant cette guerre, bien avant les sanctions économiques occidentales, eh bien, les bureaucrates, les affairistes, les oligarques ont payé à la population même une guerre de classe contre cette population. Alors, on pourrait la payer de façon encore plus chère, parce que en voyant une fraction de plus en plus large de la jeunesse mobilisée, y compris dans une qui n'est pas la sienne. Et puis ils la paieront aussi s'ils laissent le terrain libre à tous les nationalistes pro-russes, à l'extrême droite, qui se trouvent vus là aussi, qui a aussi profité de la nécessité de la guerre pour étouffer toutes les revendications sociales, et pour mettre en place pour ceux qui refusent de se soumettre. Alors, il faut quand même savoir que pas plus en Europe de l'Est qu'en Asie, au Moyen-Orient ou nulle part ailleurs, un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre. Et donc de ce point de vue-là, les travailleurs russes n'ont vraiment aucun intérêt à s'aligner, à soutenir la politique nationaliste de Poutine. Quant aux travailleurs qui vivent ici en France ou en Europe de l'Ouest, eh bien, là aussi, pas plus sur la question ukrainienne que sur la question syrienne, malienne ou autre, eh bien, ils ne doivent soutenir la politique de leurs dirigeants. On ne doit pas marcher. Aujourd'hui, il y a une propagande qui tend à nous dire qu'il va falloir apporter un soutien, y compris militaire, à Porochenko, à l'armée ukrainienne, etc. En tout cas, il y a une fraction dans la presse, etc., de gens qui prennent cette œuvre. Prépare les esprits à ça. Eh bien, nous ne devons pas marcher dans ce mauvais remake de la guerre froide. Parce que, évidemment, c'est absolument pas les intérêts ni des travailleurs ni d'ici, ni de là-bas, que nos gouvernants diriez représentent. Alors, la seule porte de sortie, eh bien, c'est que les travailleurs en Europe ou ailleurs relèvent la tête et retrouvent la conscience de leurs intérêts communs. Ils engagent le combat contre le capitalisme dans la perspective d'exproprier les capitalistes qui plongent toute l'économie, toute la société dans le chaos à l'heure actuelle. Alors, cette voie, elle peut sembler ténue, elle peut sembler étroite, mais elle existe et c'est surtout la seule qui ouvre un avenir digne. Alors, bon, dans cette introduction, je ne suis pas revenu sur le passé révolutionnaire de tous ces pays qui constituent l'ex-Union soviétique. Mais quand même, l'avoir en tête, c'est fondamental. Il y a un siècle maintenant, eh bien, en prenant le pouvoir à la tête de l'Empire des Soviets, dans l'ensemble de l'Empire tsariste, eh bien, le parti bolchevique, il avait levé le drapeau de l'émancipation sociale. Malgré l'isolement de la révolution russe, malgré la guerre civile, une guerre civile qui a duré 4 ans, qui a fait des ravages inouïs, une guerre civile qui avait été déclenchée par la coalition des Occidentaux et toutes les forces conservatrices, réactionnaires qui étaient contre la révolution, eh bien, les bolcheviques, ils ont été capables d'unir tous les opprimés, quelle que soit leur situation, leur nationalité, leur langue, leurs croyances, et ils ont vaincu. Alors que l'ancien empire tsariste, on l'appelait la prison des peuples, eh bien, à l'issue de la révolution et de la guerre civile, eh bien, la majorité de la population de ces opprimés, ils ont fait le choix de continuer à vivre ensemble dans la même entité. Et bien ça, c'est une formidable réussite des bolcheviks et qui contraste avec la division actuelle en Europe qui ressurgit un petit peu partout. Mais justement, et bien, rien que cet aspect de la révolution russe, elle nous permet de voir qu'à partir du moment où les opprimés et les travailleurs, ils ont une politique, ils ont une direction politique, ils ont une perspective pour prendre la tête des soulèvements, pour prendre la tête de la contestation sociale, eh bien ça ouvre de toute autre possibilité. Alors, si ça a été possible il y a un siècle dans des conditions d'isolement et de guerre civile, cette voie-là, elle reste encore plus ouverte aujourd'hui avec une situation où le prolétariat dans toute cette région du monde est infiniment plus nombreux, massif. Alors, à plusieurs reprises depuis l'indépendance de l'Ukraine, il y a eu des crises politiques et des crises sociales. Bon, lors de chacune d'elles, les travailleurs auraient pu jouer un rôle politique autonome pour défendre leurs propres intérêts de classe, les mettre en avant. Le drame, c'est justement qu'à aucune de ces occasions, il n'y a eu trouvé des militants, des forces politiques pour l'exprimer, pour permettre que ça s'organise. Alors, ce qui reste quelque chose d'important, un facteur d'optimisme, c'est que justement à cause de l'héritage soviétique, cette classe ouvrière, elle est nombreuse, elle est concentrée, elle est liée par la langue, mais pas seulement par la langue, par les structures économiques même héritées de la période soviétique, elle est liée au prolétariat russe lui-même, qui est lui-même à la fois concentré et confronté à une situation politique qui est là. C'est la même que celle que vivent les Ukrainiens. Les travailleurs ukrainiens ont une multitude de liens aussi avec les travailleurs de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, via l'immigration, via... Eh bien, tout ça, c'est un levier possible. Alors, pour que tout ça, ça se concrétise, eh bien, il faut des militants, il faut des organisations en Ukraine, en Russie, comme ailleurs, eh bien, qui se placent sur le terrain du communisme, qui cherchent à formuler, exprimer cette politique. Eh bien, c'est cela que souhaitons, nous voulons militer et œuvrer pour que ça se reconstitue et se développe.
Qu'il avait assuré en installant un consulat ici en Russie, en faisant la Chine. nation là, c'est une agression caractérisée de l'impérialisme nord-américain à travers un gouvernement composé par des oligarques, des fascistes, des nazis. Depuis 1933, il n'y avait pas eu des fascistes et des nazis dans les gouvernements d'un pays européen. Aujourd'hui, Anna, il semblerait que pour vous et pour certains dirigeants, ça ne signifie absolument rien. Il y a eu de l'autre côté, ça a été la réaction d'abord de la population, dont l'a empêché de parler sa propre langue, et dont l'a annoncé qu'ils allaient l'indiquer parce qu'ils étaient des Russes, par des fascistes. Hein? Et donc ils ont mené une guerre qui continue jusqu'à maintenant, appuyée par les États-Unis, et pas par les guerres dans les Russes. Hein? Parce qu'en ce moment, il y en a 500 instructeurs américains qui font les troupes des fascistes ukrainiens, comme des troupes américaines et comme des services de renseignement européens. Qui a en réalité, c'est la continuation d'un plan stratégique. Alors bien, dans ces conditions-là, étant donné que c'est un plan de la première puissance impérialiste du monde, de l'ennemi principal de toute l'humanité, que c'est l'impérialisme américain, et c'est fait là, j'espère qu'il y aura personne qui vous le dit, contre un État qui est dégénéré, la seule position possible, c'est la défense de cet État ou au moins pour la classe mondiale. L'organisation d'un front commun impérialiste qui ne fasse aucune concession politique à Poutine, mais qui lutte à côté de lui contre l'impérialisme américain. Je ne vois pas une autre politique possible. L'abstraction absurde, déplacer les espoirs dans une sorte d'abstraction qui n'existe pas, c'est-à-dire une classe guerrière imaginée, qui ne participe pas réellement dans la vie politique actuelle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est là, ce n'est qu'une abstraction. Aujourd'hui, la seule politique, parce qu'il y a une force, il y a une perspective, c'est là aujourd'hui peut-être le mec politique. Mais c'est déjà cela. Et la moindre des choses, c'est les choses telles qu'elles sont. C'est une agression de l'impérialisme américain qui vise à maintenir son hégémonie mondiale, qui aujourd'hui, à un moment donné, s'est dirigée contre la Russie par les pays d'appareil, comme aujourd'hui, en ce moment même, menace la Chine.
Dans son exposé par rapport à la politique bolchevique, tu sous-estimes les difficultés qu'ils ont eues. Je rappelle quand même pour Rosa Luxembourg et Lénine, discussion sur le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, qui est en cours et qui compte. Deuxièmement, les difficultés de l'armée rouge devant la Pologne, qui ont été vaincues, et en Géorgie. La deuxième chose, juste titre, tu défends l'idée qu'il faut un parti révolutionnaire. C'est vrai. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, puisque je rappelle quand même qu'entre février et octobre 17, les difficultés qu'a eu Lénine, y compris dans son parti révolutionnaire bolchevique, y compris contre la majorité des dirigeants, je rappelle quand même qu'il était prêt à fusionner et à faire le parti tout seul. D'ailleurs, non, c'est pas parti du parti bolchevique à ce moment-là, mais plus tard, à partir de août. La troisième chose, pour terminer, il faut un parti révolutionnaire. Maintenant, il faut savoir, et ça c'est peut-être très difficile, je le conçois très bien, c'est quelle politique aujourd'hui, sur quelle revendication ce parti révolutionnaire pourrait intervenir en extérieur.
Le mouvement en place Maïdan, c'est un mouvement qui n'est pas soutenable politiquement par la communauté internationale. Le mouvement a des fascistes, ce n'est pas juste l'extrême droite, c'est des fascistes directs qui sont aussi aujourd'hui partis de leur gouvernement. Le mouvement, c'est soutenu par l'impérialisme européen, une première ligne, l'Allemagne et la France, et par les États-Unis. Vous avez parlé en fait de l'effet que l'Union européenne a sur le pays. Et c'est ça, l'Union européenne, c'est une union de l'impérialisme européen sur le poids de l'Allemagne et de la France. La Grande-Bretagne,
fait, c'était sur deux petites questions. C'était par rapport à l'intitulé du forum, justement, sur le fait qu'on parle d'impérialisme occidental, mais qu'on ne parle jamais d'impérialisme russe. Donc, l'idée, un petit peu, savoir pourquoi, justement, cette différenciation au niveau des termes. Voilà, c'était la première petite chose. Et la deuxième, c'était plus par rapport à cette idée hein, qu'une internationale ouvrière, on va dire, mise en place pour être, apporter des solutions hein, politiques. Et là, par rapport à cette question, c'est comment faire une internationale ouvrière, ne serait-ce qu'en Europe, lorsque même en France, on n'arrive pas à unir les travailleurs, et que même l'extrême gauche française, la gauche française, donc on va dire, n'arrive pas à s'unifier. Donc comment unifier un continent ou un monde lorsqu'on n'arrive même pas à unifier la gauche française? Moi, ça serait ma question.
Merci. Je représente ici l'organisation de l'Ukraine. Alors, on est venu de l'Ukraine pour vous parler, pour discuter. On a le stand ici. Vous pouvez prendre quelques tracts de nous. Alors, c'est vraiment la question très difficile pour expliquer tout de suite. Mais il faut quand même soutenir la thèse que Maïdan, au début, c'était vraiment la vague très majoritaire et populaire. Alors, ce n'était pas vraiment le projet américain ou quelque chose comme vous dites fasciste. Il faut se méfier de cette rhétorique-là. Il y a vraiment la propagande derrière ces mots. Ça veut dire que la guerre sur une continent renforce la propagande nationaliste. Il ne faut pas tomber dans ce discours nationaliste en défendant le côté russe ou le côté américain ou ukrainien. Ça veut dire que si on est des vrais marxistes, des vrais révolutionnaires, on critique tous les côtés, soit ukrainien, soit russe, soit occidental. Il faut quand même avouer que Maïdan n'a pas réussi de créer la force de la gauche. Ça veut dire que notre faute principale, c'est qu'on a été des suivistes des mouvements populaires, mais en fait, ça a échoué dans le projet bonapartiste de Poroshenko. Ça veut dire que maintenant, depuis ces fautes-là, il faut créer le parti de gauche à l'Ukraine et notre organisation. Nous essayons de créer le parti peut-être avec vous, peut-être avec nos camarades de Russie, parce qu'on est internationalistes. De toute façon, on crée le parti et on vous invite de discuter de prendre partie aussi dans ce projet-là. Je vous rappelle qu'on a le stand sur lequel vous pouvez présenter ces groupes. Et on va continuer de discuter.
Bon, ben il y a pas mal de choses. Alors, première intervention, moi si je l'écoute jusqu'au bout, ça n'a pas été dit comme ça, mais la conclusion, la seule et unique, c'est qu'il faut soutenir Poutine, et qu'il faut finalement quasiment s'enrôler dans les troupes armées du côté du Donbass, parce que c'est quand même ça la conclusion, c'est soutenir Poutine. Bien sûr, oui, évidemment qu'il y a une attaque, un plan des puissances impérialistes, une volonté des puissances impérialistes, eh bien, de mettre la main économiquement, politiquement, sur tous les pays du monde, d'imposer leur ordre mondial. C'est pas une grande découverte, c'est un fait, hein, et que leur politique en Ukraine, elle va dans ce sens, hein, évidemment. Bon, maintenant, le même camarade a parlé de classe ouvrière imaginée. Ah ben, je suis désolé, mais les c'est des forces sociales potentielles. Voilà, le fond du problème, c'est quelle direction politique, quel objectif politique. Voilà. Alors, en gros, ces camarades nous proposent de soutenir Poutine. Alors, ensuite, c'est la conclusion logique quand même. Alors, ensuite, un autre intervenant pose la question sur l'intitulé de notre forum et nous demande. Attends, tu as eu la parole, tu pourras éventuellement la reprendre.
Félix, il faut donner
un peu de
soutien pour les
deux gardes. Tu l'as pas dit comme ça, et tu vas me laisser. Alors, justement. Donc, un camarade.
Ça suffit là.
Tu permets. Bon. Politiquement, c'est ce que tu dis. Même si c'est pas ce que tu dis avec formellement, ça revient à ça. La politique que tu dis. La politique. En quelque sorte, le fond du problème, effectivement, c'est de faire une politique aux travailleurs. Bon. Alors, la deuxième intervention. Après, on est revenu sur la difficulté du Parti bolchevique, des débats qu'il y a eu au sein du Parti bolchevique sur la question nationale. Mais justement, oui, il y a eu des discussions, mais surtout ce qu'il y a de remarquable, c'est que leur politique, elle a permis de réussir. Hein, c'est que, au bout du compte, en effet, parce qu'il y avait la révolution, parce que les bolcheviques ont cherché à opposer non pas les peuples en fonction de leur nationalité, mais les opprimés contre les oppresseurs, les ouvriers, les paysans, contre les propriétaires terriens, contre les capitalistes, ça a été le ciment que ça a été. Bon, effectivement, ça n'a pas été une lutte facile. Le camarade a aussi rappelé les difficultés, les déboires. La guerre civile, ça a été extrêmement difficile. Mais justement, le fait qu'à l'issue de cette guerre civile, une classe sociale, un État, l'ouvrier naissant, ait pu tenir tête à la coalition politique-militaire infiniment mieux armée qu'il y avait en face de lui, sur quel ciment il a pu s'appuyer? Justement, sur l'enthousiasme révolutionnaire des travailleurs, des opprimés, et sur le fait, justement, que volontairement, consciemment, ces opprimés sont défendus, le contrôle des richesses, le contrôle de l'État qu'ils étaient en train de mettre en place. Et justement, le bilan de cette guerre civile souligne que quand il y a une politique qui est proposée aux travailleurs, eh bien elle permet justement de passer par-dessus ces bancs. Alors, un camarade a posé la question sur l'intitulé de notre débat. Pourquoi on ne parle pas de l'impérialisme l'impérialisme russe et l'impérialisme de Poutine? Eh bien justement, voilà, entre ceux qui utilisent comme un sésame, comme un hochet un petit peu la caractérisation d'État ouvrier dégénéré pour la Russie aujourd'hui, sans y mettre un contenu de classe, juste comme une formule, ça c'est un aspect. Et puis d'autres disent c'est l'impérialisme russe et également tire un trait d'égalité entre la Russie de Poutine et la politique des impérialistes. Ben, entre les deux, il y a justement une analyse, une compréhension des choses qui est un petit peu plus compliquée, un petit peu plus fine. Alors oui, on ne parle pas de l'impérialisme de Poutine, eh bien, parce qu'en effet, Poutine, il est le porte-parole politique des intérêts des privilégiés qui sont aujourd'hui à la tête de la Russie. Mais en effet, cette classe privilégiée, elle est l'héritière de la bureaucratie qui a pillé, qui a vécu en morpion de l'économie planifiée pendant des décennies, et elle a une relation avec l'impérialisme qui est justement bien plus compliqué, bien plus subtil, et qui fait qu'en effet, dans cette affaire-là, ceux qui ont l'offensive, ceux qui cherchent l'hégémonie, c'est en effet les impérialistes. Et de ce point de vue-là, Poutine, il réagit de façon défensive pour défendre les intérêts des classes privilégiées dont il représente les intérêts. Et de ce point de vue, c'est vrai que c'est les agresseurs, c'est les impérialistes. Mais dire ça, c'est-à-dire
sens-là, pour savoir effectivement comment, dire, comment évoluent les choses. Mais une fois qu'on a dit ça, eh bien, ça ne résout pas le problème du mouvement, ça permet de comprendre le problème fondamental qui est d'armer les travailleurs et de proposer aux travailleurs justement de comprendre qui sont leurs amis et qui ne le sont pas. Et de ce point de vue-là, eh bien, en effet, c'est important de comprendre à la fois que les dirigeants politiques qui étaient à la tête du Maïdan il y a un an et demi, dont est issu le gouvernement, ce sont des adversaires, des ennemis, des travailleurs. Alors on peut, bien sûr qu'il y avait des partis d'extrême droite fascistes, mais on peut répéter ça longtemps. Bon, ça sert à... Enfin, c'est pas tellement le problème de répéter si les fascistes, les fascistes, c'est des forces politiques réactionnaires, des dangers pour les travailleurs, en effet. Mais c'est aussi important de comprendre eh bien, que ceux qui aujourd'hui sont alignés derrière Poutine et prétendent représenter les intérêts du Donbass sont aussi des ennemis des travailleurs. Et de ce point de vue-là, on n'a pas à choisir les uns contre les autres. Et si on a quelque chose à mettre en avant, dans cette situation qui est bien compliquée, hein, c'est justement dans cette histoire quels sont les intérêts des travailleurs, des classes populaires, des uns et des autres. En montrant, d'une part, que ce n'est pas aux travailleurs et à la population de payer la crise, la décomposition, le pillage, la corruption, et que ce n'est pas non plus à cette population de payer les effets de la guerre. Alors moi, je n'ai pas une réponse à la question des camarades, quelle politique concrète, parce que moi, je ne suis pas tout seul en Ukraine, nous n'avons pas les moyens, les éléments pour discuter de façon extrêmement précise de cette politique-là, mais on a une générale de conduite pour savoir dans quel sens le défendre. Et la première des choses, c'est de ne pas présenter des ennemis pour des amis.
Thank you.
important de registrer la longue histoire de l'impérialisme, russe, dont l'histoire dans l'Ukraine avec les envahissements, avec la colonisation des bases d'Ukraine et des autres abus. L'impérialisme américain, ça existe dans cette situation, mais ce n'est pas l'impérialisme américain qui amasse les troupes et les chars lourds sur les frontières de l'Ukraine, c'est l'impérialisme russe qui fait ça.
Écoutez, voilà, c'est l'illustration que parmi les interventions, en gros, c'est soit vous soutenir un camp parce que c'est l'impérialisme qui est le principal responsable, soit vous soutenir l'autre camp parce que c'est Poutine qui est le plus responsable. Et ces deux positions, ben, elles finissent par amener et par ligoter les travailleurs, les classes populaires à une direction politique, l'une ou l'autre. Et c'est exactement ça le fond du problème. Hein. Et donc, ni l'une ni l'autre ne représente les intérêts des travailleurs. Et en effet, le fond du problème, eh ben, c'est de s'atteler de façon pragmatique et concrète, y compris le camarade est intervenu pour décrire la situation des mineurs dans le Donbass. Et bien effectivement, cette catastrophe minière où on a vu aussi bien les séparatistes d'un côté que le gouvernement officiel d'Ukraine tergiverser pour laisser l'accès, faire un cessez-le-feu pour permettre aux mineurs d'être évacués, ben ça illustre bien le même mépris de ces travailleurs qui sont de la chair à produire, de la chair à canon des deux côtés. Et le fond du problème, ben c'est d'offrir une autre voie, justement indépendante des deux, et de faire en sorte que les millions de travailleurs de classe populaire auraient des tas de raisons, justement, de se battre de s'organiser, puissent le faire pour leurs propres intérêts. C'est là-dessus que je vais conclure.